Chapitre 45. Kreiss vint trouver Martin un jour. Kreiss, de la vraie fange. Et Martin le vit venir avec soulagement. Hélas, ce fut pour s'entendre exposer les détails d'un projet tellement fumeux qu'il eût pu l'intéresser davantage comme romancier que comme investisseur. Kreiss s'interrompit au milieu de sa présentation pour lui dire que, dans certains passages de la Honte du Soleil, il l'avait trouvé très balourd.
« Mais passons. Je ne suis pas venu ici pour parler philo, » poursuivit-il.
« Ce que je veux savoir, c'est si oui ou non tu es prêt à mettre $1000 dans cette affaire. »
« Non, je ne suis pas balourd à ce point, » répondit Martin. « Mais voici ce que je vais faire. Tu m'as offert la plus belle soirée de ma vie. Tu m'as offert ce que l'argent ne peut pas acheter. Aujourd'hui, j'ai de l'argent et il ne représente rien pour moi. Je vais te donner ces $1000, sans valeur à mes yeux, en souvenir de ce que tu m'as donné, toi, et qui pour moi n'a pas de prix. Tu as besoin d'argent. J'en ai plus qu'il n'en faut. Tu es venu pour ça. Inutile de tourner autour du pot. Prends-le. »
Kreiss ne manifesta aucune surprise. Il plia le chèque et l'empocha.
« Ah, ce tarif-là, je suis prêt à t'organiser toutes les soirées que tu voudras. »«
Trop tard, » dit Martin.
Ce fut une soirée unique pour moi. J'étais au paradis. C'est de la routine pour vous autres, je sais, mais ça n'en était pas pour moi. Je ne revivrai jamais de pareils moments, j'en ai fini avec la philosophie. Je ne veux plus entendre un mot là-dessus.
C'est le premier dollar que m'ait jamais rapporté ma philosophie, commenta Kreiss en méditant sur le pas de la porte. Et voilà déjà que le marché s'effondre.
Un jour, dans la rue, Madame Morse passa à côté de Martin en voiture. Elle le salua en souriant, et il lui sourit en retour en levant son chapeau. L'anecdote le laissa de marbre. Un mois plus tôt, il en eût éprouvé du dégoût, ou tout au moins une certaine perplexité sur l'état d'esprit de la dame. Mais aujourd'hui, il n'y accorda même pas une seconde pensée, et il oublia Madame Morse comme on oublie les immeubles qu'on dépasse le long du trottoir. Il avait d'autres préoccupations qui, toutes, tournaient autour du même axe, de la même idée fixe. J'avais déjà tout écrit. Cela devenait une obsession qui lui rongeait la cervelle comme un asticot indestructible, le réveillait le matin, le tourmentait la nuit dans ses rêves. Tous les problèmes de la vie se résumaient à ces seuls mots « j'avais déjà tout écrit ». Au terme d'un cheminement logique implacable, il arriva à la conclusion qu'il n'était personne, qu'il n'était rien. Marthe Eden le voyou et Marthe Eden le marin avaient été des êtres réels. Mais Martin Eden, l'écrivain célèbre, n'existait pas. Martin Eden, l'écrivain, était un mirage né de l'imagination de la foule et que la foule avait fait entrer de force dans la peau de Marthe Eden, voyou et marin. Mais il ne se laisserait pas berner. Il n'était pas ce mythe que la foule vénérait et à qui elle offrait des dîners en sacrifice. On ne l'y prendrait pas. Lorsqu'il lisait ce que les magazines disaient de lui, il était incapable de se reconnaître. Il n'avait rien de commun avec le personnage dont on faisait le portrait. Il avait vécu, lui. Il avait frémi. Il avait aimé. C'était un gars qui avait roulé sa bosse, qui s'était ri des pesanteurs de la vie, avait mouillé sa chemise dans les postes d'équipage, foulé des territoires inconnus et mené sa bande de dur à cuire au combat. Un gars qui avait pris peur en entrant pour la première fois dans une bibliothèque et qui avait su ensuite dompter les livres. Un gars qui avait passé des nuits blanches avec un éperon pour compagnon et avait lui-même écrit des livres. Mais ce qu'il n'était pas, c'était ce colossal estomac que la bourgeoisie s'obstinait à vouloir remplir. Il y avait cependant certaines choses qui l'amusaient dans les magazines. Ils se disputaient tous sa paternité. La rédaction du Warren's Monthly expliqua à ses abonnés qu'elle était toujours en quête de nouveaux talents et que c'était elle qui avait fait découvrir Martin Eden au grand public. Le White Mouse revendiqua la primeur, aussitôt contestée par la Northern Review et le Macintosh Magazine, à leur tour battu en brèche par le Globe, qui exhiba triomphalement ses archives dans lesquelles gisait toujours le cadavre démantelé du Champ de la Mer. Youth and Age, qui avait ressuscité après avoir trouvé le moyen d'échapper à ses créanciers, publia un éditorial de la mémo que personne ne lut, sauf peut-être quelques enfants de fermiers. Le Transcontinental ne fut pas en reste et affirma, preuve à l'appui, qu'il avait été le premier à publier Martin Eden, prétention récusée par le Hornet, qui brandit la Perry et la Perle pour sa défense.
Les modestes revendications de la Singletree Darnley & Company furent noyées dans la masse, une modestie qui s'expliquait uniquement par le fait que cette respectable maison n'éditait aucun magazine susceptible d'assurer sa publicité. Les journaux calculèrent les droits d'auteur de Martha. Il y avait eu des fuites, et les offres faramineuses de certains magazines n'étaient plus des secrets. Des prédicateurs d'Auckland lui firent des appels du pied, et des mendiants professionnels l'inondèrent de lettres. Mais les pires étaient les femmes. Ses photographies étaient largement diffusées, et les chroniqueurs exploitaient à l'envi son visage viril et bronzé, ses cicatrices, ses larges épaules, ses yeux clairs et ses joues creuses. Cela lui rappelait sa folle jeunesse, et les œillades appuyées dont le gratifiait la jante féminine le faisaient rire sous cap. Il n'avait pas oublié l'avertissement de Brissenden et s'en amusait. Aucun danger de ce côté. Il ne se laisserait jamais détruire par les femmes. Il y avait beau temps qu'il en était revenu. Un jour, accompagnant Lydie à l'école du soir, il surprit un regard que lui lança une élégante et jolie bourgeoise. Le regard était un peu trop long, un peu trop insistant. Lydie, à qui la chose n'avait pas échappé, se raidit, vexée. Martin le remarqua et lui dit, pour la rassurer, qu'il commençait à y être habitué et que cela ne lui faisait ni chaud ni froid. « Mais ça devrait, » répliqua-t-elle, les yeux brillants. « Tu es malade. Voilà ce qui ne va pas chez toi. » « Je ne me suis jamais mieux porté. J'ai pris 2 kilos. Je ne parle pas de ça, je parle de ta tête. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ton ciboulot. Même moi, je m'en rends compte et je ne suis pas une lumière. » Il resta pensif, sans répondre. « Je donnerais cher pour que tu t'en sortes, » reprit-elle. « Ça devrait te faire quelque chose quand les femmes te regardent comme ça. Un homme comme toi, c'est pas naturel. Si t'étais efféminé, je dis pas, mais c'est pas le cas. Je te jure que je serais contente sincèrement si tu pouvais enfin tomber sur une femme qui te fait de l'effet. » Il laissa Lydie à l'école du soir et regagna le métropole. Dans sa chambre, il se laissa tomber dans un fauteuil Maurice et regarda droit devant lui. Sans somnoler, mais sans penser à rien. Son esprit était vide. Seules quelques images du passé surgissaient par intermittence sous ses paupières, comme des rêves trop fugaces pour s'imprimer dans sa conscience. Il ne dormait pas. Il consulta sa montre, 8 heures pile. Il n'avait rien à faire et il était encore trop tôt pour se coucher. Son esprit se vida de nouveau et les images recommencèrent à défiler. Vagues et éphémères, toutes semblables, des feuilles et des branchages traversés de lumière. Un coup frappé à la porte le tira de sa rêverie. Un télégramme, une lettre, un domestique qui lui apportait des vêtements propres de la blanchisserie. Il pensa à Joe. Où était-il en ce moment ? « Entrez, » dit-il. Il pensait toujours à Joe et ne tourna même pas la tête. Il entendit la porte se refermer doucement. Puis, le silence s'installa. Il en oublia qu'on avait frappé à la porte et se remit à contempler le vide devant lui. Soudain, il perçut un sanglot derrière lui, un sanglot de femme, bref, spasmodique, vite maîtrisé. Il se retourna. Une seconde après, il était debout. « Ruth !» dit-il, surpris et déconcerté. Pâle et défaite, elle se tenait sur le seuil, appuyée contre la porte. Elle lui tendit piteusement les bras et fit un pas vers lui. Il vint à sa rencontre et la guida vers le fauteuil en lui prenant les mains. Elles étaient glacées. Il approcha un autre fauteuil et s'assit sur l'accoudoir. Il était trop confus pour parler. Dans son esprit, sa liaison avec Ruth était une affaire classée. Il n'eût pas été plus empoté si la blanchisserie de Shelley Hot Springs eût tout à coup envahi l'hôtel Métropole en jetant à ses pieds une semaine de linge à laver. Il essaya de dire quelque chose, hésita. « Personne ne sait que je suis ici », commença Ruth d'une toute petite voix avec un sourire séducteur. « Qu'avez-vous dit ?» Il fut surpris par le son de sa propre voix. Elle répéta ses paroles. « Ah ! » fit-il, incapable de trouver les mots pour lui répondre. « Je vous ai vu entrer, et j'ai attendu quelques minutes. fit-il encore. Il avait la langue liée, le cerveau engourdi. Il se sentait stupide et gauche, mais il avait beau chercher, il ne trouvait décidément rien à lui dire. L'invasion de la blanchisserie de Shelley Hot Springs l'eut moins embarrassé. Il eut retroussé ses manches et se fut mis au travail.
« Et vous êtes entré, » dit-il finalement.
Elle acquiesça, avec un petit air espiègle, en dénouant le foulard qu'elle portait au cou. « Je vous ai aperçu de l'autre côté de la rue, quand vous étiez avec cette fille. »«
Ah oui, je l'ai accompagnée à l'école du soir. »
« Eh bien, n'êtes-vous pas heureux de me voir ?» reprit-elle après un nouveau silence.
« Si, si, mais n'était-ce pas un peu osé de venir ici ?»«
Je suis venu en cachette. Personne ne sait que je suis ici. Je voulais vous voir. Je suis venu vous dire que je m'étais conduite comme une sotte. Je suis venu parce que je ne supporte plus d'être loin de vous, parce que j'ai écouté mon cœur, parce que je voulais venir. »